On est là. Merci d'être là, les amis. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. Il se passe quoi que ce soit sur la route. Ça a l'air que c'est glissant à certains endroits, mais s'il y a des sorties de route, merci de nous en informer au 418-971-101. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Il est analyste politique. C'est quelqu'un à qui on aime bien jaser une fois de temps en temps. Son nom, c'est Jérémy Guillot. Salut, Jérémy.
Salut à vous deux.
Très content de te jaser. Là, t'es-tu à Ottawa? T'es-tu à Montréal? T'es-tu à Québec? Là, tu te promènes tout le temps? T'es tout le temps sur la route? T'as une vie de joueur de hockey?
Il y a une coupe de joueurs
de hockey
aussi.
Quand même, un peu moins à Montréal. Mais j'aime ça parler, par exemple. Moi, je m'en vais dans d'autres terrains glissants, peut-être pas sur la route, mais en politique, c'est glissant pas mal ces temps-ci pour nos politiciens. Mm. François Legault à Washington. On avait Pierre Poilievre en Arctique, un peu toute seule, là, qui avait l'air d'un manchot perdu sur la glace.
Mais c'est intéressant. Honnêtement, Poilievre en Arctique, c'était intéressant qu'il y aille. Par contre, il avait l'air un peu plus d'une potiche que d'autres choses. J'ai l'impression qu'il répétait ce que beaucoup répètent depuis des années, mais lui, il s'est dit, moi le faire là-bas, par contre.
Mais il faisait froid, mais en plus, ils n'ont pas mis ses lunettes. Là, fait qu'il avait l'air à absolument rien voir de ce qu'il était en train de lire dans le téléscripteur. Fait que c'était assez particulier. Mais il y a beaucoup d'actions, tant au niveau des États-Unis avec le fameux 25% de Donald Trump. Comme tu le dis, là, au fédéral, on va rentrer en élection, on sait juste pas quand, mais il y a une course à la chefferie pour ce qui est du Parti libéral. C'est complètement hallucinant ce qui va se passer. Un genre de couronnement de Carney qui va devenir premier ministre du Canada alors qu'il n'aura pas passé par le jugement de la population. Là.
Non, puis... En même temps, c'est un processus normal. Là. Le prochain chef va devenir premier ministre après être allé. Ce qui est important, c'est qu'il se mette au test de l'élection rapidement. Et c'est ce qu'on entend à Ottawa. Dans les couloirs, là, en ce moment, là, ce qu'on nous dit, c'est que les intentions de Mark Carney, si jamais il est élu, ce serait de déclencher les élections avant que le Parlement revienne, donc avant le 24 mars prochain. Ça, ce serait une bonne chose. Mais pourquoi les libéraux se tournent dans cette situation-là? C'est parce que les sondages en ce moment sont plus positifs qu'ils ne l'ont été dans les deux dernières années. On voyait même le Palace qui sortait un sondage vendredi dernier qui mettait Mark Carney en tête dans les intentions de vote fédérales. On n'a pas vu ça depuis longtemps, les libéraux devant les conservateurs. Palace nous disait que les libéraux avec Mark Carney auraient 39% contre 38% pour les conservateurs de Pierre Poilievre et un maigre 9% pour le NPD. Donc ça veut dire que les libéraux sentent qu'ils ont un petit momentum. Ils vont peut-être essayer de surfer là-dessus rapidement.
Il y a des gens qui nous questionnaient par les textos 88-971-1021 quand on en parlait de Mark Carney en disant « Mais là, ça compte-tu comme un intérim, ce qui fait en sorte qu'il ne pourrait pas être à la tête du Parti libéral lors des prochaines élections? » Il y a des gens qui sont mêlés, là, Jérémy.
C'est pas un intérim. Justin Trudeau n'a pas été avec un chef par intérim. Il est resté chef du Parti libéral du Canada. Il est resté premier ministre du Canada. Le temps qu'on lui choisisse un successeur, il s'est engagé à démissionner et à ne pas se représenter ensuite. Donc, une fois que Mark Carney gagne la chefferie le 9 mars prochain, théoriquement, le 10 mars, il devrait être premier ministre du Canada et chef du Parti libéral du Canada, donc celui qui va les représenter lors de la prochaine élection.
Est-ce qu'il pourrait y avoir une association avec deux partis que je trouve, ça n'appartient qu'à moi, là, que je trouve très louches au fédéral, c'est-à-dire le NPD puis le Bloc québécois, qui sont prêts à vendre un peu de leur droit de vote pour des principes qui leur est propre?
Bien là, en ce moment, le NPD, on sent qu'il serait peut-être ouvert à refaire... Bon, il a déchiré l'entente à peu près 22 fois avec les libéraux, puis là, il est peut-être capable de revenir un peu en arrière. Là. C'est comme quelqu'un qui continue de retourner avec son ex tout le temps. Là. Mais, tu sais, les libéraux, je ne suis pas certain qu'ils vont vouloir s'embarquer là-dedans. En ce moment, là, ce qu'ils ont à leur avantage, c'est que les messages de Pierre Poilievre ne fonctionnent plus aussi bien qu'ils fonctionnaient. Justin Trudeau n'est plus là. La taxe carbone ne fait plus partie de l'équation. Les gens n'associent pas nécessairement encore Mark Carney à Justin Trudeau. Là. Le « Just like Justin » de Pierre Poilievre ne fonctionne pas aussi bien qu'il l'aurait pu vouloir. Et de dire que le Canada est brisé, on en a déjà parlé ensemble, à un moment où il y a un patriotisme qui reprend un peu de poil de la bête, là, c'est un petit peu étrange. Donc là, on l'a vu hier en article, Pierre Poilievre, qui essayait de mettre beaucoup l'emphase sur « Canada first ». Le Canada d'abord, et ça, c'est un nouveau message. Mais du côté des libéraux, on ne veut pas lui donner l'occasion de se redéfinir et de retravailler son message. Ce serait une erreur stratégique, selon moi.
Est-ce que, parce que là, je regarde comment ça se passe, là, est-ce qu'on pourrait rouvrir le Parlement en ayant un premier ministre qui ne peut pas être en chambre?
On peut faire ça. On peut effectivement faire ça. Il serait probablement représenté par son vice-premier ministre ou le leader en chambre du Parlement. Bon, tout pointe vers quelqu'un comme Dominique Leblanc à ce moment-là. Ça s'est déjà fait dans le passé. Il y a déjà eu des chefs qui n'étaient pas là. Lui, il n'est pas élu, mais ça va être difficile pour M. Carney d'être chef, d'être premier ministre, puis de ne pas siéger. Là.
Est-ce que ça peut jouer sur de futures élections, justement, en disant ben, on n'était pas, c'était pas équitable, en fait, notre représentation, on n'avait pas notre chef, notre leader qui était entre les murs? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être négocié à ce niveau-là, autre qu'une représentation où vraiment c'est strict, c'est fini?
Je suis pas certain de comprendre ta question, je m'excuse.
Ben, Carney peut pas, des fois, agir comme Justin Trudeau le faisait, parce qu'il n'a pas été élu par la population. Est-ce que ça pourrait être jugé inéquitable lors d'une prochaine élection? Est-ce que les libéraux pourraient jouer là-dessus?
Bien, en fait, je pense que M. Carney va être premier ministre du Canada. Là. Moi, je pense que c'est lui qui va gagner. Et je suis pas certain. Il y a un manque de légitimité certain dans la course et je pense que c'est pour ça qu'ils vont décider de se lancer rapidement aussi en élection. M. Carney va devoir se faire élire. Si jamais les libéraux sont capables de rester en poste encore un an, M. Carney va devoir se faire élire à la première opportunité, donc peut-être une élection partielle. Et là, ça peut représenter des risques pour lui aussi. Souvenez-vous, quand Jack Meetsing est devenu chef du Parti néo-démocrate à l'époque, il s'était présenté à la première opportunité qu'il avait eue, et ça, c'était à Vancouver. Donc, il y a des chefs qui sont extra-parlementaires. Des fois, ça peut donner la latitude d'aller sur le terrain, de sortir du Parlement et de laisser l'équipe parlementaire faire le travail au Parlement. Ça reste une dynamique qu'on n'a pas vue souvent en politique canadienne. Il y a beaucoup de questions qui pourraient se poser. Et moi, je pense que M. Carney n'aurait rien à gagner à ne pas déclencher des élections rapidement. La seule affaire qui peut venir jouer un petit peu dans l'équation, c'est l'état des tarifs avec les États-Unis. Dépendamment de où on en est et de si on a besoin d'approuver des législations qui permettraient d'aider, par exemple, les entreprises et les entrepreneurs rapidement, bien là, ça pourrait peut-être changer la donne sur une élection rapide ou non.
Qu'est-ce qui fait qu'on évacue Chrystia Freeland comme ça?
Brutus n'est jamais devenu César. Celui qui poignarde l'empereur a fini par se faire exiler. Et je pense que Mme Freeland a négligé un peu l'impact de sa trahison auprès de ses collègues. C'est quand même surprenant de voir que ses anciens collègues du cabinet, en grande partie, ne l'appuient pas. Lui ont préféré Mark Carney. La grande majorité des employés qu'on entend, des militants libéraux, des organisateurs libéraux se sont tournés vers Mark Carney. Madame Freeland, en ce moment, ne semble pas aussi être capable de se distancer comme M. Carney fait dans les intentions de vote. Donc ça, les gens vont le voir et finalement se rallier vers la personne qui vont donner aux libéraux la meilleure chance d'être compétitifs. Je ne dis pas que les libéraux vont gagner la prochaine élection. Moi, je fais très attention à interpréter un sondage ou deux sondages pour prédire le résultat des élections. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais en ce moment, la tendance est à l'avantage des libéraux.
Je ne sais pas si tu as vu le Financial Post, je pense que Pierre Poilievre l'avait retweeté, mais ils ont mentionné exactement ce qu'on avait jasé, toi et moi, il y a de ça quelques semaines, parce que Mark Carney n'était pas au Parti libéral, mais il conseillait Justin Trudeau pendant la pandémie, puis Pierre Poilievre est revenu un peu avec ça sur les réseaux sociaux hier en disant « Attendez un peu, là, c'est parce qu'il l'a conseillé quand même pendant 5 ans, là, sans nécessairement être sur place, c'est lui qui lui pissait à l'oreille ce qu'il devait faire de l'économie. » Donc, on essaie de dire que Carney, c'est la continuité aussi de Justin Trudeau. On essaie de le salir. Là.
Et ça colle pas beaucoup parce que, je vais te dire, j'ai déjà conseillé des ministres qui m'ont pas écouté tout le temps là, à chaque fois que je leur conseillais quelque chose. Il y a une différence entre conseiller et dire ce qu'on pense et une différence entre être celui qui prend la décision et applique. M. Carney l'a dit en fin de semaine, il n'aurait jamais, par exemple, mis en place le congé de TPS temporaire pendant les fêtes. Donc, pour lui, c'est du gaspillage de fonds publics. Pour moi aussi, d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises à l'époque et je le réitère aujourd'hui. Donc, d'avoir conseillé quelqu'un ne fait pas de toi cette personne-là. Et c'est là que je pense que le message de Pierre Poilievre doit être travaillé. Il devra attaquer Mark Carney sur ce qu'il propose et lui aussi proposer quelque chose de concret. Je disais en début d'émission là, qu'il avait l'air un peu d'un manchot égaré dans l'article. Bien, tu sais, c'est... À un moment donné, il va falloir voir l'équipe qui entoure Pierre Poilievre, pas juste Poilievre.
J'ai une question par rapport à ça. Puis c'est toujours difficile de l'évoquer sans être peinturé dans un coin de genre « c'est pas le tien, tu le veux pas, t'es pas content. » Je vais le faire pareil. Pierre Poilievre, est-ce qu'il y a l'étoffe d'un premier ministre? Si on n'avait pas eu toute la polémique avec Donald Trump et autres, j'ai l'impression qu'on se serait peut-être fait enfirouaper. sur ce qu'il dégage et non le contenu de cet homme-là.
Mais Justin Trudeau, est-ce qu'il avait l'étoffe d'être premier ministre?
Bien, on s'est fait enferouaper.
Exact.
Là, j'ai vraiment un déficit d'efficacité politique, moi, dans ce que je perçois par rapport à Pierre Poilievre. Puis c'est quasiment un service qu'on a actuellement avec tout ce qui se passe, de voir à quel point il est capable ou non de chauffer le bois quand c'est le temps.
Oh.
Dans les dernières années, on a rarement voté pour la personne la plus intelligente sur le billet de vote. Hein. On a souvent été pour la personne qui était capable de mieux vendre sa salade dans les médias, qui paraissait bien, qui était capable d'articuler un message dans ce qu'on pense qui est un bon communicateur.
Ouais.
Mais des Michael Ignatieff, des Mark Carney dans le passé, ça s'est fait évacuer parce que c'était trop compliqué comme message, parce que c'était trop dans les détails. Et ça, mais malheureusement, il y a des nuances qui se perdent. Donc, les gens que ça l'amène au pouvoir, c'est des communicateurs. Souvent, on l'a vu, là, le dernier cabinet de François Legault, c'est presque exclusivement, il y a beaucoup d'anciens journalistes, de grands communicateurs, etc. Donc ça, c'est de plus en plus valorisé en politique, au détriment de peut-être un peu de profondeur par moment.
Mais souvenons-nous de la vague orange qu'on a eue à la grandeur du Canada avec Jack Layton. T'sais, Jack Layton, c'était le gars qui était capable de bien s'exprimer dans les deux langues, s'exprimait bien en français avec un accent, mais c'était surtout le gars qui avait de l'air sympathique, avec qui tu disais, OK, ce gars-là semble à peu près avoir les mêmes valeurs fondamentales que moi. Bon, il s'est passé d'autres choses dans le secteur de Toronto avec Layton, là. Mais quand il est venu à Tout le monde en parle, ce que je constatais le lendemain de sa présence à Tout le monde en part, c'est « j'irai prendre une bière avec ce gars-là n'importe quand ». Les gens l'appréciaient beaucoup.
Et le Québec vote beaucoup comme ça. Particulièrement, puis on l'a vu d'ailleurs dans cette élection-là en 2011, quand la map était bleue et orange au Québec, les gens, on vote beaucoup avec notre cœur. On vote beaucoup avec « ah, lui, je l'aime, j'irai prendre une bière avec, j'y fais confiance ».
Mais c'est une belle façon de le dire. Mais on est-tu con, Jérémy, finalement?
Ben, techniquement, tu devrais mettre en place la personne qui est là pour bien gérer la Ville de Québec, la personne qui est là pour bien gérer la province de Québec.
Mais ma question, Yannick, c'est
le Canada.
On est-tu con?
Ben, un peu, oui. Certains égards. Il y a des gens... Je sais pas, Jérémy, si tu fais partie de cette génération-là, mais moi, quand j'étais jeune, les gens, ils votaient la même couleur de famille en famille, de génération en génération.
Ça se tenait même avec la bière, les Nordiques puis les Canadiens.
C'est ça. Mais aujourd'hui, je pense que les gens s'intéressent de plus en plus à la politique puis ils font des choix peut-être un peu plus avisés, là.
Je t'ai déjà dit la grande déception de mes grands-parents de par ma couleur d'allégeance par le passé. Mais... Tout ça pour dire peut-être que l'écosystème a changé aussi. C'est pas tout le monde qui est 100% à l'aise de venir dans un micro comme on fait aujourd'hui et de parler, de mettre son cœur sur la table, de mettre ses tripes sur la table puis d'en discuter devant des centaines, des milliers de personnes qui vont nous écouter. Ça prend... C'est pas un exercice qui est facile d'être concis, d'être précis puis de partager un agenda politique sur plusieurs dossiers de façon simple, mais en même temps, de façon concrète et authentique. On en demande beaucoup à nos politiciens et ceux qui ont émergé de ça, c'est les meilleurs communicateurs, plus que les grands érudits. Après ça, on voit tout ce qui se passe, la petite politique, les gens qui s'arrêtent au premier niveau de l'affirmation politique pour créer des attaques négatives en politique. Ça ne donne pas toujours envie aux érudits de ce monde de se lancer.
Mais c'est la job à qui? C'est-tu la job aux partis politiques d'offrir, mettons, un chef de parti en conséquence ou encore d'y aller avec une genre de potiche? Ou encore, c'est notre job en tant qu'électeur de ne pas se laisser entraîner peut-être dans le courant un petit peu plus facile?
Un peu tout le monde. D'abord, de prendre le temps de lire les plateformes électorales qui nous sont proposées. Nous, en tant qu'électeurs, on a aussi un devoir de voir qu'est-ce que les partis proposent concrètement au-delà de ce qu'on nous raconte dans les médias. Qu'est-ce qui vient nous chercher? Et un parti politique ne viendra jamais chercher 100% de qui on est. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps avec les libéraux à Québec et au Canada, et par moments, j'étais quand même en désaccord avec les orientations que le parti prenait, mais globalement, c'est ce qui me ressemblait le plus. Et c'est ça qui est important aussi, parce qu'on a une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut voir de nos politiciens? Qu'est-ce qu'on veut voir des partis politiques? Les partis politiques ont aussi la responsabilité de pas mettre juste des communicateurs de l'avant, mais de mettre des gens qui sont capables de gérer les finances, gérer l'armée, gérer la santé, gérer les approvisionnements de la bonne manière.
Okay, visiblement, ça fait 150 ans qu'on n'a pas réussi à trouver ces personnes-là. Là.
Mais on va quand même pas si mal que ça. Quand on se compare, on se compare.
On est-tu con? On n'a pas ça.
La santé, l'éducation, nos infrastructures, tout est en train de s'effondrer.
Puis en plus, nous, on a un micro. Ça s'explique pas.
Exact.
Là.
Mais peut-être que tu seras la prochaine vice-première ministre du Québec. Qui sait,
Pascal?
T'es une grande communicatrice. Jérémy Guillot, c'est un plaisir. Là, tu t'en vas-tu à Ottawa dans les prochains jours? Là?
Je pars à Ottawa demain. J'enseigne, moi, à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, je vais être avec les étudiants jeudi matin. On parle de relations publiques, de comment faire des bons messages, la bonne communication. Donc, j'espère que je me débrouille pas si mal avec vous.
Amusez-vous. Salut, Jérémy.
Salut.
Bye-bye.
Bye-bye, l'excellent Jérémy Guillot, un analyste politique à qui on aime bien jaser. C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on devrait avoir ces discussions-là avec notre famille, ben nos oui. amis, tu sais?
Mais la chicane part, pareil.
Ouais, mais je veux dire, tu chicanes pas pour ça. Mais mettons une discussion ouverte, c'est quoi les trucs que les politiciens vont faire qui vont faire en sorte que nous, on va voter pour eux? Mm-hmm. Pour quelle raison on vote toujours pour de la même couleur?
Parce que c'est super marketing maintenant, politique. Ça l'était, mais ça l'est ouais. d'autant plus. J'étudiais en communication à l'Université Laval, puis il nous avait parlé beaucoup du parcours de René Lévesque. Puis à quel point lui avait perfectionné son art pour aller chercher l'attention, captiver, rallier derrière lui et tout. Ça reste que c'est étudié, ça reste que même on est le produit de cette étude-là pour les politiciens.
Et en même temps, ce gars-là était tellement humain, je veux dire.
Oui, bon, il l'avait, mais il n'avait pas le charisme. Fait que là, ils ont travaillé sur son charisme. Puis il a été capable d'en avoir assez, tu sais.
Tu sais, c'est un journaliste de guerre, là.
Ouais.
Il a eu une maudite belle carrière comme journaliste de guerre. Puis ces moments-là, les gens votaient pour la couleur et non pas pour les idées. Puis après ça, j'ai l'impression que ça s'est transformé. C'était plus la couleur, c'était de quoi il a de l'air le gars, de quoi il a de l'air la fille, sa pancarte. Puis des fois, tu votes juste pour le chef. Tu sais, Jack Layton, ça a été ça. Les gens voulaient Jack. Fait qu'il y a une tsarine, la tendresse, qui étudie en littérature russe, qui a été élue, alors qu'elle avait juste été porter son CV pour être bénévole. Ils ont dit, hey, on regarde ton CV, tu as un bac en littérature russe, tu ferais une bonne candidate.
On va te mettre sa pancarte.
Ben, elle, ça lui a donné une job de presque 160 000 par année.
On peut être content des fois. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait bien la job, mais je comprends ce que tu veux dire. C'était beaucoup plus.
Les gens votaient pour Jack plutôt que pour Tsarine, tu sais.
Mais le contexte est la même chose, des fois, du genre. Crème, je veux-tu voter pour mon député ou je veux voter pour tel parti? C'est aussi, c'est complexe. Quand tu as un super bon député, mettons Pascal Bérubé, là. Matane, Matapédia, là, c'est constant. Il est tout le temps réélu.
Lui, c'est le gars qui veut rien savoir d'être chef. C'est juste hallucinant. Il a toutes les qualités pour l'être.
OK, mais mettons, je te dis ça, là, OK? Ça fait des années que tu es bien implanté comme député. Tu te fais entendre, tu réussis, tu viens de te voir puis tu te trouves cute. Il se regarde dans la caméra. Mesdames et messieurs, êtes-vous à l'écoute? Oui, parfait. Pascal Bérubé, lui, mettons, il est bien implanté, il est là, il se fait réélire, il se fait entendre, il y a un certain pouvoir sur son parti, il connaît la machine. Est-ce qu'il risquerait de tout perdre ce qu'il a construit en allant se mettre la tête comme chef d'un parti, puis que si ça fonctionne pas, il va falloir qu'il démissionne? Je sais pas. Tu sais, des fois, il faut que tu choisisses bien ton combat.
Ouais, mais non, d'abord pas moins que c'est le genre de choses qu'on peut discuter avec les amis, des fois la famille. OK, on va faire... on s'en va en musique, les amis. Juste après la pause, je veux jaser de l'intelligence artificielle. La grandeur de la planète, on travaille énormément sur l'intelligence artificielle. On a mis la main sur quelque chose qui est hyper révolutionnaire, qui va extrêmement vite. Puis à certains endroits, on dit, ouais, il faudrait contrôler la bête. Puis à d'autres endroits... on continue de nourrir la bête. Donc là, il y a certains pays, le Canada, les États-Unis, en Europe aussi, puis des grands penseurs. Là, j'ai un gars en tête, Joshua Banjo, ça se peut-tu, qui lui a dit qu'il faudrait arrêter pendant quelques mois le temps de voir est-ce qu'on peut mettre un peu d'éthique là-dedans.
Lui, il a fait un texte dans la presse il y a quelques jours.
C'est
là.
Où on peut aller, puis c'est où on ne devrait pas aller avec l'intelligence artificielle. Donc, on va jaser de ça avec Patrick Mathieu, qui est le cofondateur du Hackfest et expert dans le domaine de la sécurité informatique depuis plus de 20 ans. Les États-Unis, entre autres, qui pourfendent la régularisation de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, Pearl Jam, Last Kiss sur Boulevard.